est blanche.
40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Mon invité du jour a déclaré « Le Web3 est encore un club fermé qui exclut les non-initiés. Nous voulons permettre aux marques de toucher tout le monde. » Alors, on fait un pari, c'est qu'après l'écoute de ce podcast, on agrandit le club des initiés. Séraphie de Tracy, bonjour.
Bonjour Solène.
Alors Séraphie, tu es la fondatrice de Cohort. Cohort qui développe donc une solution SaaS pour démocratiser l'usage des NFT pour les marques et ses clients. Alors avant que tu nous expliques tout ça en détail et qu'on puisse devenir initié, je t'ai demandé de choisir une musique qui décrit ton aventure Cohort. Et tu as choisi... Coldplay, Viva la vida. Pourquoi ce choix ?
Alors en fait, je trouve que c'est une chanson qui donne la patate. Et en fait, je trouve que quand t'es entrepreneur et tous les matins, t'as une galère, grosso modo, hein, ça, pour moi, c'est la définition de l'entrepreneuriat, c'est un jour une galère. Bah, je sais pas, pour moi, je la mets, je sors du métro, et là, j'ai l'impression que tout est possible, que le monde est, tu vois, est open et que la chance peut être saisie à tout moment. Donc, je sais pas, je trouve que le rythme... Le titre, voilà, je trouve que ça définit que quand t'es entrepreneur, faut avoir envie de se battre et que c'est cool d'avoir des musiques qui donnent, tu vois, j'ai l'impression de rentrer sur le ring en fait.
Qui donne la patate pour y aller. En tout cas, merci, ça nous a lancé dans une bonne ambiance pour ce podcast. Alors, comme je le disais, Cohort, ça tourne autour du Web 3. Mm. Comment t'expliquerais finalement à un enfant de 5 ans ce que fait Cohort ?
Alors là, c'est le challenge, effectivement, un enfant de 5 ans, c'est souvent on me demande est-ce que tu peux expliquer à ta mère. Donc là, c'est l'enfant de 5 ans. Ouais, c'est effectivement, en fait, le Web3 souffre un peu de cette image de complexité, de jargon, qui d'ailleurs, je pense, a été un peu entretenu, tu sais, par les crypto-natifs, une sorte de club un peu exclusif où tout le monde n'est pas invité. Le Web3, c'est... si tu veux, moi, je pense... Pour un enfant de 5 ans, on va dire, un enfant de 5 ans, il est habitué à écouter de la musique en ligne avec ses parents, tu vois, via Spotify, etc. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, là, sur Internet, on est à l'heure de l'abondance absolue. Et avec l'IA, ça va être encore plus renforcé. C'est-à-dire que un contenu peut être multiplié, on ne sait pas d'où il vient, il n'y a pas d'origine. Le Web3, ça permet en fait de dire qu'un contenu digital a une origine, une unicité, et qu'on sait qui l'a créé. Voilà, et ça, je trouve que c'est un concept super intéressant de dire que un actif digital peut avoir une propriété, une provenance, et on peut le tracer.
Comment t'es tombée dans le Web3, toi ?
Alors franchement, je ne saurais pas dire. Tellement c'est... En fait, si mon premier souvenir, c'est je travaillais à Londres à l'époque. Je me retrouve dans le métro pour aller à mon boulot. Et en fait, le métro londonien est très, très enterré. À l'époque, il n'y avait pas la 4G. Et donc, on bouquinait dans le métro à Londres. Et je me retrouve à bouquiner un livre de blockchain sur l'architecture décentralisée de la blockchain. Je me souviens encore, sur la couverture, il y avait un taureau. Enfin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et en fait...
Déjà, tu avais fait le choix d'acheter ce
oui,
livre.
Oui, voilà, exactement. Donc, je ne sais même pas pourquoi, tu vois. Mais le truc m'avait intéressé. Je bouquine et je me rends compte qu'on tient un truc qui, pour moi, est révolutionnaire. Où en fait, l'Internet qu'on a... Tu sais, moi, je suis née dans... Enfin, mon adolescence, c'est franchement... Je n'aurais pas le lien, mais bon, c'est les piratages de vidéos, de musique. On faisait ça à l'époque, quand on était ados. C'est un peu le grand truc, quoi. Et tout d'un coup, on voit cette nouvelle techno qui arrive et qui dit qu'un fichier peut être unique. J'ai trouvé ça passionnant, en fait. Et je travaillais dans une grande boîte à l'époque. Et très rapidement, je me suis dit, je veux absolument rentrer dans cet univers-là. Et donc, j'ai envoyé mon CV en candidature spontanée à une boîte de blockchain. Et voilà, l'aventure a commencé.
Alors, si on revient sur Cohort, si tu devais nous expliquer concrètement ce que fait Cohort, tu nous dirais quoi ?
Alors, Cohort, c'est une... on a une boîte de SaaS. Donc, le SaaS, vous connaissez, hein, c'est du software. Donc, on est une boîte de logiciels qui va venir aider les marques ou plus globalement, toutes les organisations un peu B2C à venir réinventer la manière dont elles interagissent avec leurs clients. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, globalement, la manière dont les marques engagent avec leurs clients, c'est... soit via des intermédiaires type Instagram et autres social media, où en fait on va venir poster du contenu et toucher sa communauté via l'intermédiaire des plateformes, soit grosso modo l'engagement client ça se résume un peu à une carte de feed que t'as dans la poche où t'accumules des points et c'est intéressant, hein, t'as de la récompense financière, mais il se passe pas grand chose non plus. Nous on pense qu'avec l'émergence de ce qu'on appelle les NFT, donc les jetons non fongibles et la blockchain qui est sous-jacente, les marques tiennent un nouveau véhicule hyper intéressant, hyper souple pour réinventer la manière dont elles interagissent avec leurs clients, avec deux intérêts principaux. Le premier, c'est que elles vont pouvoir énormément innover autour de leurs produits parce que tu vas pouvoir adjoindre à des produits physiques toute une gamme de services et d'expériences parce que tu vas accoler à ton produit physique un certificat NFT. Donc, un petit objet digital qui va pouvoir dire cette paire de chaussures, grâce à la propriété de ce NFT, je vais lui adjoindre un service de cordonnerie à vie ou des choses comme ça. Et deuxième chose, c'est que le NFT a la propriété d'être possédé par l'utilisateur final. Donc, moi, en tant que consommateur, je possède ma donnée.
Et c'est qu'à toi, c'est ta propriété.
Et c'est qu'à moi. Et je décide ou non de la partager avec toi, Marc, ou avec une autre marque. Et ça, dans un monde où on aspire vers une meilleure souveraineté sur ces données, je pense que c'est une technologie qui est très future-proof. Et donc super intéressante parce que dans un an, on a la fin de toute une génération de tech, comme les cookies tiers. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est tout ce qui traquait, qui permettait à des services de traquer un peu les utilisateurs sur le web. Et donc en fait, on a un besoin de renouvellement aussi des technologies d'engagement client.
Et de réassurance aussi.
Absolument, et je pense que la promesse du Web3 qui est de dire que ta donnée elle est à toi, et c'est toi qui choisis, moi je trouve que c'est une super promesse, et je trouve que le Web3 a suscité énormément de fantasmes, énormément de résistance, alors que je pense qu'il est porteur de beaucoup de bonnes choses.
Mais ça vient peut-être du fait de ce que tu disais tout à l'heure, où au départ il y a eu un peu de cette sacralisation et c'est un club fermé, on ne permet pas d'y rentrer, mais le fait que les marques aussi s'y intéressent, c'est plutôt bon signe.
Très bon signe. Et surtout, je trouve qu'il y a une évolution un peu des cas d'usage qu'on voit. Peut-être qu'il y a un an ou même deux ans, les marques se lançaient un peu au prisme de collections de NFT vendues assez chères, avec des codes un peu du gaming et de la crypto. Cette phase-là, pour moi, elle est derrière nous et c'est plutôt une bonne chose. Et là, on entre dans une phase où les marques se disent comment j'ajoute de la valeur pour mon client, comment je lui permets de vivre quelque chose qu'il n'a pas vécu ailleurs et qui lui apporte une valeur. Mmh. Et donc, on est dans des cas d'usage qui vont dépasser la spéculation, qui vont dépasser ces choses qui sont franchement pas intéressantes et qui vont venir... Moi, je suis convaincue que, tu vois, dans quelques années, on aura tous, sans le savoir, des NFT parce qu'on aura des marques qu'on adore, avec qui on a envie de s'engager et qui nous auront, via le biais de NFT, proposé des expériences vraiment cool.
Est-ce que tu as des exemples concrets de clients avec qui vous travaillez aujourd'hui qui ont déjà mis ça en place ?
Ouais, on en a pas mal. On a une vingtaine de marques avec qui on bosse. On a des petites marques qui sont ce qu'on appelle des digital native vertical brands, donc les marques qui se sont lancées essentiellement sur les réseaux sociaux. Et c'est des marques qui sont très créatives, donc on les adore comme clients parce que ils ont plein d'idées.
Et elles sont prêtes à tester aussi.
Et elles sont prêtes à tester rapidement. On a une marque avec qui on bosse depuis longtemps qui s'appelle L'Atelier Shelter, par exemple. C'est une marque de cosmétiques pour hommes. L'idée, c'est eux, ils utilisent en fait notre solution pour créer leur programme de fidélité.
D'accord.
Ok, donc au lieu de se dire, on va passer par la case, je mets des points, je mets des tampons dès que tu achètes quelque chose et je te propose au bout du dixième produit d'en avoir un gratuit, ils ont proposé en fait des programmes de fidélité innovants grâce au NFT. Le NFT, c'est juste un enable, enfin, c'est juste un facilitateur technologique pour permettre à cette marque de proposer à ses clients des expériences de fidélité qui sont extrêmement personnalisées.
Ouais.
Tu vois, l'idée, c'est d'arriver à ce qu'on, le client ressente, qu'on le considère comme un client unique, tu vois, que ça soit ultra segmenté, ultra personnalisé, et que les récompenses ne soient pas que financières, mais au contraire, ça soit très expérientiel autour de choses qui t'importent à toi en tant que personne.
Et par exemple, avec cette marque-là, tu peux nous donner des exemples?
Ouais, par exemple, tu vois, genre, ce qui est intéressant, ils font des éditions limitées avec des street artistes.
Okay.
Et les gens qui achètent ces produits sont des gens qui sont intéressés par ce domaine-là aussi. Donc, pour chaque produit acheté, vient un certificat NFT qui te donne acte qui est un, le certificat de provenance et de traçabilité du produit, donc tu sais exactement d'où il vient, quelle est la composition des ingrédients. Et après, tu as toute une dimension informative sur l'artiste qui a signé le flacon.
D'accord.
Tu as son double digital, ce qui est assez sympa en termes de gamification. Tu fais rentrer un peu tes clients vers un monde un peu digital sympa. Et après, tu es invité, par exemple, à une conférence avec l'artiste, à le rencontrer. Tu es invité à des événements chez des barbiers partenaires autour des gammes de soies qui t'intéressent. Et l'idée, c'est qu'on te fasse rentrer dans un programme de fit qui soit vraiment, tu as l'impression, en tout cas, qu'il est conçu pour toi.
Est-ce que... Parce qu'il y a un peu ce côté marché biface, c'est-à-dire d'un côté, les marques, si elles donnent des NFT et qu'elles investissent sur cette techno, il faut aussi que de l'autre côté, le consommateur soit réactif, comprenne ce que ça lui apporte, etc. Comment vous travaillez cette évangélisation
ouais. Alors, tu vois, il y a peut-être un an, quand on s'est lancé au début, les marques nous posaient la question, est-ce que nos clients sont intéressés par les NFT? Moi, j'ai envie de leur dire la réponse, vous la connaissez, c'est non. Enfin, c'est comme si vous demandiez il y a 10 ans, est-ce que vous pensez que nos clients sont intéressés par les emails? Non, enfin non, tout le monde s'en fiche. Les gens sont intéressés par les expériences, par les avantages, par ce que ça va leur apporter dans le quotidien. Donc la question, c'est est-ce que mes clients sont intéressés par des expériences personnalisées, segmentées, qui dépassent la récompense financière? La réponse, elle est oui. Et le NFT, c'est un moyen pour atteindre ça. Donc aujourd'hui, les clients ne viennent plus en nous disant, les marques ne viennent plus en nous disant est-ce que le NFT peut m'aider? Maintenant, c'est comment je le mets en place pour délivrer des expériences personnalisées. Et donc, en termes de est-ce que les clients ont envie de ça? Oui, ils ont envie d'expériences personnalisées. Est-ce qu'ils ont envie d'un NFT? Non. Et je trouve que c'est très bien d'ailleurs.
Oui, qu'on rentre pas dans cette dimension technique. Donc
exactement.
En fait, là, ce qui compte pour le client, c'est dans sa perception de la marque, c'est plus la volonté en fait et l'expérience que j'ai un NFT.
Exactement. Je pense que ça peut intéresser certains clients et ça peut être un super moyen. Il y a forcément une génération que ça intéresse. Par définition, c'est les plus jeunes, les fameux Gen Z, où il y a une vraie appétence pour ce genre d'actifs digitaux. Et là où ça peut vraiment être aussi un argument d'acquisition, clairement, parce que ça vient avec un ADN de marque très créatif, ça montre de l'innovation. Donc clairement, ça va intéresser ces genres de segments-là. Mais plus globalement, je pense que les gens, ils ont envie que la marque soit créative, qu'elle montre qu'elle innove et qu'elle propose des expériences de folie. Voilà, le NFT, c'est juste le nouveau moyen de faire ça. Il y a 5 ans, c'était les social media, c'était Insta. Mmh. Maintenant, cette partie-là, elle est devenue presque inaudible. Il y a énormément de bruit sur les réseaux sociaux.
Oui. Puis le coût d'acquisition est énorme.
Le coût d'acquisition est énorme. Et donc maintenant, pour moi, le nouveau moyen de se différencier, d'innover, c'est ces technologies-là, en fait.
Et vous voyez déjà des perspectives dans les marques B2B?
Ah ouais, c'est intéressant parce que on m'a posé la question la semaine dernière justement pour un article et j'étais là. Alors traditionnellement le B2C est toujours en avance sur l'innovation, clairement. Mais oui, parce qu'en fait, quand je parle de proposer des expériences un peu segmentées, un peu granulaires, globalement, je me dis que c'est valable quand on est en B2B et qu'on a par exemple pas mal de distributeurs, de partenaires à animer. Clairement, il y a des cas d'usage. Mais je pense que le premier cas d'usage intéressant en B2B, c'est comment je vais venir fédérer mes employés, mes alumni, en permettant justement de leur proposer des expériences en tant qu'employés, donc des expériences de marque employeur qui soient plus interactives, immersives et segmentées aussi. Donc il y a clairement quelque chose à faire là aussi.
Et vous êtes inspiré de choses qui se faisaient ailleurs, parce qu'on parle souvent aussi des États-Unis, qui, par exemple sur les DNVB qui étaient un peu plus en avance que nous. Il y a des boîtes qui t'ont inspiré?
Ouais, bah il y a des boîtes qui sont passionnantes aux US. Alors, je pensais pas un jour de parler de cette boîte-là, mais Starbucks,
ouais.
Qui globalement, vient de lancer un programme de fidélité complètement basé sur cette nouvelle technologie qui est le NFT, et qui ont fait un job. Justement, ils sont allés au step d'après. On ne parle pas de NFT, on ne parle pas de crypto, on ne parle pas de wallet. Toute l'expérience est fluide.
Sans couture, comme sans on couture, disait.
Exactement.
Dans un autre temps.
Exactement. Et en fait, voilà, tu vois, ils sont pas... Alors que c'est une énorme boîte, ils ont pris un énorme pari de lancer leur programme de fit comme ça. Et tout de suite, avec, je trouve, cette clarté de la vision qui est de dire, bah, la technologie doit être à sa place, c'est-à-dire comme un facilitateur pour un bénéfice qui est l'engagement client. Donc ça, je suis très inspirée par leur démarche, même le wording qu'ils utilisent. Tu vois, ils utilisent des mots comme, au lieu d'appeler ça un NFT, ils appellent ça un stamp, c'est-à-dire un tampon de voyage.
Ouais.
Et le wallet, ils appellent ça un passeport.
D'accord.
Tu vois, c'est intéressant.
Bah, du coup, ça démocratise aussi, parce que ça fait moins peur.
Exactement.
De se dire, c'est wallet, c'est très froid comme mot.
C'est atroce.
Blockchain, ça te donne pas, c'est pas chaleureux. On n'a pas envie d'aller faire un bisou à la blockchain.
Non, clairement, c'est pas une ambiance câlin avec la blockchain, c'est clair. Mais tu vois, pour te dire, chez Quartz, on a interdiction de dire le mot wallet.
D'accord.
Si tu dis le mot wallet, tu mets 2 euros dans une espèce de... Tu sais,
de tirelire.
Et
vous faites quoi après avec la tirelire?
On va voir. Pour l'instant, elle n'est pas non plus énorme, cette tirelire. Sûrement, on se payera une bouffe avec l'équipe. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de se dire que, comme tu dis, faut faire l'effort de penser, de se mettre dans les chaussures de nos utilisateurs, qui sont des équipes marketing digitaux, et des utilisateurs finaux, qui sont monsieur et madame Martin, qui se baladent dans la rue, qui sont habitués à avoir un smartphone, à consulter des social media et à faire de l'e-commerce, mais qui passent pas leur journée sur OpenSea ou à acheter des cryptos, tu vois.
Et du coup, typiquement pour l'exemple que tu nous as donné ou pour d'autres marques, les NFT que les clients ont sont stockés sur une plateforme où pour eux, c'est complètement transparent, enfin sécurisé, transparent, mais il n'y a pas ce côté coffre-fort de « il va falloir mettre 15 codes pour y arriver ».
Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des cas d'usage où cette sécurité est nécessaire, tu vois.
Bien
quand,
sûr.
Quand tu as énormément de crypto-monnaies qui sont d'autres actifs qui reposent sur la blockchain, oui, bien sûr, il y a besoin d'avoir de la sécurité qui est très renforcée, un peu un côté Fort Knox. En revanche, nous, on propose des niveaux de sécurité qui sont très élevés et qui sont totalement intégrés à ce que les gens connaissent déjà.
Mmh.
Donc, des moyens de sécuriser qui sont les mêmes que comme ils sécurisent leur boîte email, ce genre de choses, avec ce qu'on appelle des liens magiques.
Ouais.
Donc, des liens temporaires. Et tous leurs actifs digitaux d'une marque sont logés dans le compte client de la marque. Et donc, en fait, ils y accèdent via leur authentification à
sur
leur compte client
comme, voilà. comme ils avaient l'habitude de le faire.
Exactement. Donc, tu vois, c'est vraiment pour eux fluide et totalement intégré à l'univers de la marque.
Quartz, c'est une start-up qui s'est développée très vite. Mm-hmm. Tu dis, ça a un an. Vous êtes issu de eFounders et plus spécifiquement, de ThreeFounders qui est dédié au Web3.
Ouais.
Est-ce que tu veux nous en parler de cette aventure?
Oui, absolument. C'est vrai que tu avais un an, en fait, notre anniversaire, notre premier anniversaire ce mois-ci.
Joyeux anniversaire.
Ouais, merci. Effectivement, ça allait super vite parce que quand on regarde mars 2022, on se lance. On était Nathan et moi avec toute la team Defenders autour de nous. Et effectivement, ça allait vite parce que tu vois, on s'est lancé en mars. 15 avril, on signe notre premier client. Début mai, notre produit est live avec ce premier client. Donc, c'était une aventure très rapide où, en fait, on est parti avec des convictions très fortes. C'était l'accessibilité, la simplicité et avec l'envie que nos premiers users, ça soit des gens, que ce soit pas les crypto-natifs, ce soit vraiment des gens comme toi et moi, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça, ça nous a beaucoup animés. Notre premier client, ça a été Etam, que je salue parce que je les ai trouvés extrêmement... ouverts et risk-taker. Hein. Ils ont vraiment pris des risques avec nous parce qu'on était une jeune start-up. Et c'était génial parce que nos premières users ont été des femmes. Et quoi de mieux, en fait, pour un peu aller contre la partie très crypto-native qui est très masculine, tu vois, très gamer. Donc ça a été une super aventure. Et c'est vrai que 6 mois plus tard, on a fait notre première levée de fonds, qui est un peu un passage obligé dans le logiciel parce que Il faut quand même des capitaux hein, pour développer un produit. Ça, c'est malheureusement le cas. Hein. Enfin, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est nécessaire. Donc, première levée de fonds. Et donc, maintenant, on est une équipe qui reste modeste. Hein. On est 12, mais on était 6 il y a un mois. Donc, tu vois, pour nous, c'est déjà une grosse crise de croissance. Enfin, une crise, non, mais une grosse phase de croissance.
Ça implique des choses de structuration de la boîte, en tout cas.
Ouais, enfin, après, on a encore dans ce fameux concept de la Pizza Team, tu sais, ouais. Notre ami Jeff Bezos. Et je vois son truc, c'est vrai qu'à 12, bon, bah, tout est fluide, on a tous la même info, il n'y a pas d'écart, de problème de synchro de l'information, etc. Donc, ça reste encore très facile.
T'as quelques chiffres à nous donner sur Cohort?
Ouais, écoute, on a aujourd'hui une vingtaine de marques qui nous utilisent tous les jours. Ouais. Donc, c'est canon parce que ça veut dire qu'on a des users tous les jours qui vont créer des collections, qui vont créer des campagnes de NFT sur notre solution. Et on a surtout plein de end users, tu vois, qui vont tous les jours interagir avec leurs actifs digitaux et profiter des expériences. Donc on a, si tu veux, on a ces 20 marques avec qui on travaille aujourd'hui. On ambitionne d'aller très vite et d'aller chercher les 100 prochaines marques, toi, dans la prochaine phase, avant une potentielle autre tour de financement qui viendra. On a aussi des premières marques aux US qui bossent avec nous.
Génial.
Et ça, c'est, tu sais, les US, c'est quand même un gros marché. Ils sont quand même à la pointe de l'innovation. Donc on avait envie de mettre des petits drapeaux aux US dès le début.
Vous avez des concurrents directs aux US ?
Oui, on a des concurrents. Alors, ce que j'ai appris de ma boîte d'avant, c'est que c'est très bien d'avoir des concurrents.
Tout à fait, hein? C'est qu'il y a un marché.
Exactement. Et quand il n'y a pas grand monde, bah, il faut se poser des questions, ouais. En fait. Et ouais, effectivement, donc il y a des concurrents qui sont très actifs aussi. Je pense qu'on a une vraie différenciation, c'est notre ADN avec Nathan Baraillé, mon associé. C'est... on est très terre à terre. On est très soucieux des usages et soucieux du. Ok, mais pourquoi on fait ça? C'est-à-dire que ouais, ok, super tout ça, mais pourquoi? Donc ça nous ramène vachement sur terre. Ça nous permet aussi, je pense, d'être très pragmatique par rapport à nos clients et de rassurer sur qu'on fait ça pour leur apporter quelque chose de concret avec des effets tangibles rapidement.
Comme le couple associé d'Avestesti où Alix est parti à New York pour développer, c'est quelque chose qui pourrait
ouais, totalement.
Être envisagé.
Ouais, complètement. Moi, j'ai passé du temps étudiante à New York. J'en ai souvenir fabuleux, comme tout le monde.
Ouais.
Et non, mais ouais, absolument. Je serais assez partante pour cette aventure-là, ouais.
On adore toujours dans l'univers startup le terme écosystème. Mm-hmm. Il t'a aidé, toi, l'écosystème ?
Oui, franchement. Progressivement, parce que je venais pas de cet écosystème. Hein. Moi, j'ai... plus ou moins. C'est-à-dire que j'ai quand même fait un parcours qui m'amenait vers un écosystème qui n'est pas très éloigné. Hein. Mais j'étais pas dans la tech. Hein. J'étais vraiment plutôt... J'ai fait du conseil en strat et après, j'étais dans des grands groupes. Donc, plutôt des univers plutôt corpo. Et c'est vrai que quand j'ai fait le switch dans la tech, j'ai vraiment découvert cet écosystème. Et c'est vrai que je trouve que il y a une richesse de cet écosystème aujourd'hui en France qui est incroyable. Tu vois, avant-hier j'étais au France Digital Days. C'était incroyable de voir la vivacité, l'attractivité de cet écosystème. Et oui, il m'a aidé parce que c'est vrai que aussi chez eFounders, hein, évidemment, tu bénéficies d'un réseau de soutien. Tu peux tout de suite poser la question si t'as une galère. T'as tout de suite quelqu'un qui a eu la même galère 6 mois avant et tu peux tout de suite lui dire, écoute, comment t'as fait? Et ça, c'est un accélérateur de particules quand tu lances une boîte, tu vois, de pouvoir demander de l'aide à n'importe qui. Les gens sont ravis en plus.
Oui.
C'est ça qui est incroyable.
Le partage et l'échange.
Tout le monde est là, mais bien sûr, quand tu veux, on prend un café, je t'explique. Et ça, c'est incroyable.
Et Nathan, il venait comme toi des grands groupes ou lui était déjà dans la tech?
Ah non, alors pas du tout. Nathan, c'est vraiment le tech. Enfin voilà, il a un ADN très fort. Il était. Alors lui, il a commencé dans la Silicon Valley. Il était à SF pendant 10 ans. Il a fait des grands groupes, type tu vois les Google et LinkedIn. Mais il a aussi monté une boîte aux US en IA. Tint. Et après, il est rentré en France, je crois en 2019, un truc comme ça, et il a rejoint Back Market.
Ok.
Voilà, tu vois, donc il a fait très gros, tout petit, et scale-up. Et lui, c'est un excellent ingénieur, vraiment. C'est mon associé, donc forcément, je vais chanter ses louanges. Mais c'est un excellent ingénieur avec un fort appétit pour le produit. Tu vois, très produit. C'est pas un tech qui va se faire plaisir à faire des trucs très complexes, etc. Lui, il est vraiment pragmatique, produit, avec le souci de l'utilisateur.
Et vous connaissiez avant l'aventure ?
Non, on s'est rencontrés via iFounders, ouais, en fait, qui nous ont mis en relation. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tout de suite cliqué parce qu'on partage cet ADN très, comme je disais, un peu terre à terre, en fait.
Alors, on organise cette interview aujourd'hui dans le cadre de la sortie de l'étude Invest in Her, réalisée par France Digital, EY et la Journée de la Femme Digitale. Il s'agit de la première étude dédiée à la représentation des femmes fondatrices et dirigeantes au sein de la future génération de startups à impact en France. Il y a deux choses dans cette étude. Il y a un, les femmes, deux, les startups à impact. On va peut-être commencer sur la partie femmes. En préparant cette interview, je suis tombée sur un article en mai dernier qui disait « C'est français qui révolutionne le Web 3 ». Il y avait 5 entrepreneurs cités et une femme, c'est-à-dire toi. Et je pense qu'elles ne sont pas nombreuses dans le Web 3, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais, c'est sûr. Il y en a de plus en plus, quand même. Ouais. Franchement, il y a un bel écosystème quand même féminin qui se mobilise et qui est très solidaire dans le Web 3.
Sur la partie à impact, je crois que vous avez fait le choix aussi d'une techno qui s'appelle Polygon. Peut-être tu veux nous en parler ?
Oui, absolument. Donc pour moi, la partie impact, il y a plein d'aspects. Hein. Il y a effectivement la partie sustainable, hein, et ça, c'est durable sur le point de vue environnemental. Et là, effectivement, on a fait le choix dès le premier jour d'une techno qui s'appelle Polygon, qui est un protocole blockchain, qui a depuis le début eu l'ambition d'atteindre d'abord la neutralité carbone, puis un impact négatif en carbone. Et c'est vrai qu'ils l'ont atteint la première étape en 2021, si je ne me trompe pas, et la deuxième étape en 2022. Et donc, ça nous a permis vraiment d'avoir dès le début, de faire le choix d'une infra clean.
Oui.
Mais tu vois, ce que j'ambitionne maintenant, c'est que ce qu'a fait les protocoles blockchain, j'aimerais bien que tous les opérateurs de cloud s'y mettent, hein, à atteindre ces objectifs-là. Parce qu'en fait, quand on a un logiciel de SaaS, la partie blockchain, c'est important, mais il y a tout le reste, en fait. Mmh. Et ça, finalement, ça allait moins vite que la blockchain en termes de transition écologique. Donc, j'aimerais bien aussi que tout ce beau monde s'y mette.
Il y a des lobbying qui se mettent en place là-dessus ?
Oui, je pense qu'il y a... je pense que c'est la seule manière d'y arriver. Quand je vois à quel point la pression positive, hein, médiatique et du public sur l'écosystème de la blockchain pour atteindre un meilleur impact écologique a eu un effet rapide sur tout l'écosystème des développeurs qui se sont dit « Ok, il faut qu'on arrive à trouver une solution et en 5 ans, job done », je me dis quand même que maintenant, il faudrait porter cet effort de lobby sur les autres.
Les autres. là, récemment, enfin il y a 2 jours, Disney a annoncé se retirer du métaverse. Mmh. Microsoft l'a fait, je crois, en fin d'année dernière. Est-ce que tu y vois une incidence sur ton business ? Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, ça ?
Alors, moi, le métaverse, je trouve que... Donc, globalement, un métaverse, c'est un monde virtuel. Okay.
Parallèle,
voilà, des mondes totalement digitaux. Avec le truc important, c'est que tu peux te balader, enfin, qui ont une profondeur, tu peux te balader dans le métaverse. Donc ça, pour moi, c'est intéressant comme concept. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un truc qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'aspect 3D. Quand on pense à des expériences de shopping en ligne, et qu'en fait, on se rend compte qu'un ordinateur, c'est 2D, un smartphone, c'est 2D. En fait, c'est comme si on scrollait un journal, hein, en termes d'expérience client.
Tout à fait.
Et je pense qu'il y a clairement un besoin d'avoir de la profondeur dans les expériences de shopping ou plein d'autres expériences. Mais ça peut être atteint par des manières beaucoup plus simples que le métaverse, comme on l'entend. Le métaverse, c'est vraiment un endroit où on a un avatar, on se balade et nanana. Moi, ça, je trouve ça intéressant, mais c'est pas mon dada. Et surtout, ma boîte, on a très peu d'interactions avec ce genre de monde-là. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de permettre de permettre la propriété digitale en ligne. Donc, si tu veux, le métaverse, c'est une application relativement éloignée de ce qu'on fait, nous. Nous, on est plutôt là pour dire qu'on va te permettre, toi, Solène, moi, Séraphie, de posséder tes actifs digitaux qui n'ont pas forcément d'application dans un monde métaverse, tu vois. Donc, on est assez éloigné de ça. Et franchement, s'il n'y a personne dans ces métaverses, bah, autant qu'on les utilise. Enfin, ça ne sert à rien de les garder. Hein. Donc, oui,
ça absolument. Consomme aussi.
Ça consomme. Et surtout, si ça n'intéresse personne à ce moment, c'est que la techno n'est pas prête. Donc, il faut retourner à son banc d'étudiants et développer des meilleurs technos. Hein. Mais c'est vrai que moi, là-dessus, je suis relativement. Ça me glisse un peu dessus. Quoi.
Et sur cette nouvelle, il y a Arthur Obeuf qui est cofondateur de Time for the Planet qui déclarait en fait qu'aujourd'hui l'allocation de nos ressources doit aller massivement vers la transition écologique et le maintien de notre monde habitable et que finalement toutes les startups qui ne répondent à aucun besoin dans le monde réel n'ont juste pas leur place dans l'économie. Ça t'inspire quoi, toi ?
Alors je trouve ça super intéressant comme postulat. Après il faut savoir il faut se dire, le monde réel aujourd'hui, c'est aussi notre monde digital. Hein, on peut pas dire que le monde réel, c'est pas notre monde digital. C'est-à-dire que on passe beaucoup plus de temps à parler à ses amis digitalement qu'à les voir. Pareil pour les familles, pareil pour énormément de choses. Et ce monde digital, il est utile. Okay, donc il faut, je pense qu'il faut faire un peu attention à ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et oui, il y a plein de choses qui sont des gadgets. Et là, je partage totalement. En revanche, la notion de propriété de la donnée, c'est utile. Et c'est utile aujourd'hui. Aujourd'hui, nos données, elles partent on ne sait où. Elles sont exploitées par des gens qui ne sont pas nous. Et on se livre quand même à des puissances économiques qui sont pas du tout contrôlées par l'Union européenne, etc. Et se dire que ça, c'est pas utile et que c'est pas important, là, je pense qu'il y a vraiment ce serait une erreur.
Une erreur.
Voilà. Donc pour moi, le Web3 répond à des enjeux qui sont critiques et qui sont utiles et nécessaires.
Et sur et donc si on revient sur ce sujet des sociétés à impact, toi aujourd'hui avec Cohort, parce que intuitivement comme ça, on peut se dire mais en quoi c'est un impact en fait.
Ouais, donc, je comprends très bien la question.
Et nos auditeurs, tu as envie de leur dire quoi en fait là-dessus ?
Alors pourquoi c'est un impact ? C'est qu'aujourd'hui on s'en rend pas compte parce que c'est nos vies quotidiennes, mais faut savoir que les marques avec qui vous aimez interagir. Du quotidien, hein. Ça peut être une marque de biscuits, ça peut être une marque de vêtements, une marque de déco,
marque d'hygiène,
de cosmétiques, n'importe quoi exactement. Elle n'est pas propriétaire de sa relation client. Aujourd'hui, elle doit payer plein d'intermédiaires pour te parler à toi, Solène, en tant que consommatrice. Et ça les met dans des positions et des risques énormes. Et puis il y a deux côtés à l'équation. Il y a la dépendance des marques par rapport à ces plateformes tierces. Et il faut savoir que elles sont totalement à la merci de décisions de ces plateformes d'augmenter leurs coûts, leurs prix. Donc, par exemple, ça est arrivé avec Instagram et tout d'un coup, des tonnes de marques se sont retrouvées un peu pris à la gorge.
Avec en plus un algorithme qui cache leur...
Exactement, qui va venir les cacher à leurs clientes. Donc, vous êtes cliente déjà, vous avez déjà acheté 10 fois, mais vous ne verrez quand même plus la marque sur votre feed. Là, il y a quand même un truc bizarroïde dans cette histoire. Donc, il y a la dépendance des marques par rapport à ces plateformes. Et il y a le fait que, encore je le disais, en tout cas vous, en tant que client, vos données sont totalement pillées aujourd'hui. Et donc, notre impact aujourd'hui, nous, Cohort, c'est de redonner de l'indépendance aux marques pour qu'elles puissent être propriétaires de leur relation client, qu'elles aient leur propre communauté de clients et que les clients, eux, détiennent aussi leurs données. Et donc ça, c'est super important si on se projette dans un monde où on veut partager la valeur de manière plus équitable entre les marques et les clients. Parce qu'en fait, la grosse partie de la valeur aujourd'hui, elle part sur des plateformes tierces.
Mmh. Et notamment les GAFA.
Et bien sûr. Et qui ont des presque monopoles et qui monopolisent énormément de profits. Et je pense qu'il y a la place pour des modèles de partage de valeur beaucoup plus équitables.
Est-ce que du coup, vous... chez Cohort, vous êtes investi dans des dispositifs qui travaillent éventuellement au niveau européen sur des législations, sur des choses pour faire aussi évoluer tout ça, ce qui est aussi un peu le rôle de France Digital, même complètement le rôle de France Digital. Est-ce que toi, typiquement, t'es investi dans ce type de réflexion ?
Alors, pas encore, parce que c'est vrai que on a passé une année un peu de folie avec Cohort. C'est vrai que...
Tu es déjà allé très vite.
Voilà. Non, mais c'est vrai que je trouve qu'il faut malheureusement renoncer à certaines choses quand on monte une boîte. Non pas parce qu'on pense que c'est pas important, pas du tout, mais parce qu'on n'aurait pas eu le temps d'y consacrer... Enfin, tu vois, on n'aurait pas pu avoir un impact, je pense, vraiment à la mesure de l'enjeu. Mais c'est un truc qui m'intéresse, dans lequel j'ai envie de m'impliquer. Mais je salue le boulot, tu vois, de France Digital, de l'ADAN aussi, qui bosse beaucoup sur ces sujets, qui essaye d'expliquer aux régulateurs français, européens, ce que c'est. Et on voit qu'ils font un taf incroyable parce que en France et en Europe, on a des réglementations qui sont mesurées et qui essayent, tu vois, de rester ouvertes au changement. Là, on voit que les États-Unis, par exemple, sont en train les États-Unis, ils ont tout laissé faire, en mode Far West. Et puis, tout d'un coup, ils serrent la vis et ils veulent tout interdire. Donc là, je salue leur boulot parce qu'elles ont vraiment bien éclairé, je pense, les régulateurs.
Tes plus gros enjeux et défis du moment chez Cohort ?
Alors, les plus gros enjeux, je pense, c'est... Je t'aurais dit un peu le recrutement, parce qu'on a trouvé ça difficile, mais maintenant, on a staffé l'équipe avec des profils incroyables. Donc, c'était une vraie joie. On a toujours cet enjeu qui est... que je trouve difficile parce que j'ai pas l'impression que ça bouge sur la, tu sais, sur la diversité des talents. Et je parle pas que d'hommes et femmes, hein. Il y a plein d'autres facteurs qui, et je trouve qu'en fait, malheureusement, on tombe toujours sur le même genre de profil. Hein.
Ouais.
Voilà. Donc ça, c'est quelque chose où je trouve qu'il y a toujours un énorme enjeu. Tu vois, moi, je suis une cofondatrice femme, hein, et toi, dans l'équipe, on est que deux femmes encore.
Ouais.
Quand on était 6, bah c'était cool, mais maintenant tu vois, on est 12 et on est 3 femmes, pardon. Donc en fait, tu vois, dès que tu vas staffer des équipes tech et produits, il y a juste pas moyen ou très peu de moyens de trouver des femmes, quoi. Donc c'est un peu frustrant. Et après, l'autre enjeu, c'est d'être une start-up et de voir des grosses boîtes qui se positionnent sur notre marché aussi. Donc c'est intéressant, ouais. Tu vois, de voir comment on joue notre carte par rapport à d'autres grosses boîtes.
À venir, du coup. C'est gênant aussi.
Ça. J'adore. Ça c'est.
Tu peux. C'est tu voulais dire.
Tout ce que j'aime comme musique, bien sûr.
Ton premier coup de culot avec Cohort.
Ouais, je pense. Premier client, c'est quand ils nous ont demandé, vous êtes prêts? On a fait genre, ouais, bien sûr qu'on est prêt. Et c'est vrai qu'il y avait un petit, un petit saut dans le vide parce que clairement, on était au tout début. On avait une très grande confiance dans nos capacités à faire. Peut-être trop, mais en fait, ça s'est super bien passé. Et ouais, ça a été. Moi, c'est un des grands trucs aussi que je trouve quand on entreprend, c'est qu'il faut saisir. Quand le train passe, hop, tu montes à bord. Voilà, super. Franchement, à chaque fois.
Ta première expérience perso avec le Web3?
Ouais, c'était 2015, je pense. Première expérience perso, je me suis posé la question de comment on pouvait réinventer les systèmes de notariat, de notaire avec la blockchain. Je me suis posé cette question. Ouais, c'est comme ça que je suis rentrée dans la blockchain, en fait, au début. Parce que je trouvais que c'était un super cas d'application. J'étais très naïve parce que je pensais qu'on pouvait changer ce genre de choses facilement. Et après, évidemment, en perso, tu vois, c'est acheter des cryptos pour voir un peu le truc. Alors moi, c'est pas du tout, ça m'a pas tant que ça intéressé, en fait. Enfin, si, évidemment, c'est un sous-jacent passionnant, mais je trouvais l'expérience tellement dégueulasse, je me suis dit, tant que c'est comme ça, ça n'a pas d'intérêt majeur, quoi.
Ta première big mistake?
Ouais. Oh, j'en ai fait beaucoup. beaucoup. Je pense qu'à la... Enfin, tu vois, au début où j'ai commencé à vraiment être en mode entrepreneur, et je l'applique maintenant chez Core, donc j'ai appris de mes erreurs, c'est ne pas choisir. Enfin, je disais, il faut prendre les trains, ok. Cependant, il faut faire gaffe. Parce que quand t'es entrepreneur, tout d'un coup, tout le monde te sollicite. Mais pour tout et n'importe quoi, hein, genre vraiment. Et c'est vrai que j'avais tendance à dire oui tout le temps, à faire plein de trucs, et en fait, tu te retrouves à être un peu noyé. Et à plus arriver à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et ça, je l'ai vraiment mis en application maintenant chez Core depuis un an, où je suis beaucoup plus stricte sur les choses que je fais et les choses que je ne fais plus. Donc ça, c'est une des grosses erreurs, c'est de ne pas dire non.
Et est-ce que, parce qu'il y a certains et certaines entrepreneurs qui ont un agenda hyper organisé avec des temps de meeting équipe, des temps de réflexion de fond, des temps d'interview, de presse, etc. Est-ce que toi, t'es organisé comme ça ou pas du tout?
Pas du tout. J'admire les gens qui sont comme ça, mais moi, j'arrive pas à me dire, tiens, de 9h à 12h, je vais avoir un moment réflexion profonde, sans distraction. Je suis pas faite comme ça. Je pense qu'il faut aussi apprendre à se connaître. Tiens, deuxième truc très important, je trouve, quand on monte une boîte, c'est savoir où on est bon, là où on est moins bon. Mm-hmm. Alors moi, l'organisation, comment dirais-je, très pas rigide, c'est pas le mot,
militaire,
c'est pas fait pour moi, il faut le savoir. Donc non, je suis plus dans le flex. J'aime bien. Tu vois, laisser un peu de flexibilité dans tout ça.
Ouais,
la créativité dans l'agenda, ouais, exactement.
Ta plus grosse difficulté à date sur ce projet Cohort?
Ouais, je pense que ça a été quand même à la sortie de l'été, quand il y a eu, tu vois, on a eu des gros événements dans le monde du crypto, par exemple la faillite de FTX, qui est une plateforme d'exchange de crypto. Qui a, je trouve, révélé tout ce que je détestais dans un peu dans cet écosystème, c'est-à-dire une culture du, tu sais, du crypto boy très supérieur, un peu genre ouais, enfin voilà, tous ces trucs là que je n'aime pas trop, et surtout ce côté far west de la spéculation qui a fait beaucoup de mal à l'écosystème et qui, je pense, est vraiment quelque chose qui doit disparaître. Donc ça, cette période là c'était compliqué parce que très difficile, et je comprends très bien pour nos clients et nos prospects de faire le tri.
Bien sûr.
Enfin, tu vois, je les comprends très bien. Donc, pas mal d'amalgames où tu dois un peu revenir aux bases de « on fait pas du tout ça, ça n'a rien à voir, mais je comprends votre inquiétude et écoutez. » Je pense que c'était une phase où il fallait beaucoup écouter, et ce qui est important aussi à ça.
Et puis un gros travail d'évangélisation déjà sur la techno, et en plus rassurer sur on n'est pas...
Ouais, exactement, il y a déjà du boulot d'évangélisation. Après, je mesure la différence parce que tu vois, il y a 5 ans... quand je pitchais la blockchain dans ma boîte d'avant, je peux dire que c'était encore autre chose. C'était encore à l'époque, c'était plus mais est-ce que vous financez le terrorisme, etc. Tu vois, des trucs qui étaient des fantasmes un peu comme ça. Aujourd'hui, on a passé un cap de maturité énorme. Hein. Quand je parle à une marque, il y en a pas une qui me dit je connais pas ou j'ai pas réfléchi à ce que ça pouvait apporter à ma marque. Tu vois.
Ça commence à rentrer dans les roadmaps aussi des
totalement
des clients. Est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés dans ton parcours qui t'ont inspiré par rapport à ce sujet de la blockchain ?
Oui, tu vois, il y a des gens que je trouve très... j'aime bien, par exemple, tu vois, je vais lui faire un petit... Florent Quinty, tu vois, qui est le Head of Web 3 de eFounders. C'est quelqu'un qui a cette vision très apaisée, très clair de ce qu'apporte le Web 3, de ses apports fondamentaux. Tu vois, je trouve que c'est quelqu'un qui a une vraie clarté, qui arrive à faire le tri entre ce qui est du bruit et ce qui est fondamentalement intéressant. Donc ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai adoré collaborer pendant ces premiers mois. On bosse encore ensemble. Et après, globalement, je trouve aussi, tu vois, les gens de, enfin, tu vois, Frédéric Montagnon est super intéressant aussi. Il a une vraie réflexion sur la souveraineté numérique. Que j'apprécie beaucoup aussi.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
À quoi tu rêvais quand tu étais petite fille ?
Alors, en fait, très rapidement, je me rends compte que je rêvais... Je le disais bizarrement, mais je sais que ma mère m'a sorti ça il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, quand tu étais petite, tu m'as dit, un jour, je vais être PDG. Alors, c'est très bizarre. Je me suis dit, oulala, quel enfant bizarre j'étais. En fait, non, je sais que j'avais envie de créer un truc. Donc, moi, je l'avais dit, c'était mes mots pour le dire, tu vois, parce que je savais pas comment dire autrement. Tu sais, le mot entrepreneuriat, start-up, ça n'existait pas quand, à cette époque-là. Et non, c'est vrai que j'avais toujours eu envie de créer mon truc. J'ai des parents qui étaient extrêmement créatifs dans leur vie. Hein. Franchement, ils ont eu 1000 vies. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup marqué. L'audace de faire des choses, que tu aies réussi ou pas, c'est pas le problème. C'est que t'as osé, tu vois. Et ça, ça m'a marqué. Alors au début, je pense que au début, ça m'a fait peur aussi. Dans le début de ma carrière, j'ai fait des choses très classiques, on va dire assez traditionnelles. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, ok, attends, rappelle-toi de ce que tu avais envie de faire enfant, et soit, tu vois, essaye de t'y tenir. Et donc voilà, pour moi, ça voulait dire créer mon truc, créer ma boîte, essayer mon propre truc.
Et il y avait déjà des prémices de jeux auxquels tu jouais ou de choses que tu faisais petite qui étaient annonciateurs. Alors, pas du Web 3, hein, parce que
non,
ça n'existait
pas. Non.
J'ai une vision sous un arbre.
C'est ça. Ah non, pas du tout. Ouais.
Mais plutôt de côté, justement, créer.
Ouais, alors moi, j'adorais. Enfin, tu vois, là, nos parents, ils avaient un truc que je trouve cool. C'est, on avait des jouets, beaucoup de jouets, tu vois. Mais on avait plein de Playmobil, mais on n'avait jamais la maison Playmobil. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais oui. Genre, il fallait construire avec des cartons la baraque, faire un peu des trucs. Et ce côté créatif, je trouve, ça m'a toujours marqué. Moi, j'ai toujours adoré faire des loisirs créatifs, les trucs manuels, tu vois, avec les enfants, je trouve ça trop cool. Et donc, je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais en tout cas, j'ai toujours trouvé qu'ils nous ont donné, poussé l'envie d'être créatif. Et donc, avec mes frères, on a joué mais des heures carrées à faire des cabanes, tu sais, inventer des trucs, faire un peu des jeux de rôle. Ouais, je sais pas. Je trouve ça, c'était des bonnes occupations et qui nous ont donné l'habitude. Enfin, moi, je me suis jamais ennuyée, tu vois. On rêvassait à faire des trucs, on inventait des jeux. Et je trouvais ça, et je pense que ça m'a pas mal marqué.
Et il y avait des entrepreneurs dans ta famille ?
Oui, dans le sens où tu vois, mes parents, ils ont monté plusieurs business, mais c'est pas des, tu vois, c'est en aucun cas des start-upers, hein. C'est juste des gens qui ont monté des boîtes traditionnelles.
Mais c'est bien aussi.
Oui, mais tu vois, genre, à un moment, ils ont eu un business dans l'art, un resto, monté un truc dans les professions médicales.
Et ils bossaient toujours ensemble ?
Ouais, ils bossaient ensemble. Alors ça, c'est un truc que je ne ferais pas.
Ça, c'est le schéma que tu ne veux pas reproduire.
Ouais, voilà, ça, c'est le truc que je trouve. Voilà, mais bon, chacun ses trucs. Et ouais, donc tu vois, j'ai eu cette image ouais, d'essayer plein de trucs, d'être créative dans son approche. Tout en ayant une vie de famille super sympa, tu vois, donc j'ai trouvé... ouais, j'étais très inspirée, je pense, au fond, par eux.
Qu'est-ce qui a forgé, selon toi, la femme que t'es devenue ?
Ouais, je pense... moi, je crois beaucoup à la période de l'enfance, quand même. Ouais. Je pense que j'ai eu une enfance où, voilà, on m'a appris aussi à se débrouiller. Tu vois, je me souviens de mon père qui m'a toujours parlé de ma grand-mère en me disant... c'était une femme exceptionnelle, tu vois, beaucoup d'admiration aussi pour cette figure-là, ça m'a marqué aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses où je me suis dit, tiens, tu vois, j'ai toujours été beaucoup encouragée à faire plein de choses. J'ai des frères aussi qui sont, enfin bon, enfin, tu vois, j'ai eu beaucoup de, tu vois, on m'a beaucoup poussée à faire plein de trucs, etc. Et je pense que ça a été une période assez fondatrice. Et après, j'ai fait des études qui m'ont beaucoup plu, où j'ai appris plein de choses, j'ai voyagé un petit peu, ça m'a un peu ouvert les esprits. Donc,
t'as fait HEC, c'est ça ?
Oui, j'ai fait HEC, que j'ai trouvé une très belle période. J'ai rencontré des gens que j'ai trouvé formidables, j'ai un peu voyagé, ça m'a fait du bien aussi. Et j'ai fait beaucoup de stages. Alors ça, c'était génial, parce que moi, justement, je ne savais pas ce que c'est qu'une entreprise, parce que mes parents n'étaient pas du tout là-dedans. Et ça m'a totalement désacralisé le truc, où j'ai découvert ce que c'était, en fait. J'ai fait un stage en banque d'affaires, j'ai fait un stage dans des boîtes, j'ai fait des stages dans la fonction publique. Et ça, c'était génial.
Ce qui t'a permis de tester un peu tout et de te dire ça oui, ça non.
Exactement. Et il y a eu beaucoup de non, tu vois. Donc voilà, et au final... non, ça, j'ai trouvé que c'était très formateur. En fait, ce qui m'a marqué dans mon parcours d'études, c'était les stages et les échanges et les voyages.
Voilà. Plus que les cours en eux-mêmes.
Ouais, c'est vachement important. Je me rends compte, tu vois, je sais ce que c'est qu'un bilan comptable, je sais ce que c'est que faire là un peu de strat, du marketing. J'ai toutes les bases, ça c'est super cool. Mm-hmm. Mais c'est vraiment les mettre en application qui, je trouve, a été
qui forge,
ouais, voilà, hyper instructif. Et je trouve d'ailleurs que les Français ont un avantage là-dessus par rapport à d'autres nationalités, c'est qu'on arrive dans notre premier boulot avec déjà un peu de base. On sait déjà faire des trucs.
Mm. Et qu'est-ce qui a été le déclic en fait pour sauter le pas pour devenir entrepreneur?
Ouais, l'envie d'avoir un impact.
Ouais.
Tu vois, je bossais dans des grandes boîtes, j'avais des gens brillants autour de moi. Mais alors vraiment, moi, j'avais l'impression de produire des slides et des Excel et que ça finissait un peu dans les oubliettes des comex des groupes. Ouais, et puis je me suis demandé à quoi bon, en fait, au bout d'un moment, genre à quoi je sers, tu vois. Vraiment, un petit côté comme ça. et là, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment. Il n'y a jamais de bon moment, donc allons-y, testons autre chose, tu vois.
Et donc, t'as sauté le pas.
J'ai sauté le pas, exactement.
T'en as un petit peu parlé tout à l'heure, notamment de ta maman. Off micro, je te disais qu'on sort un nouveau podcast qui s'appelle A Like sur la relation mère-fille. Qu'est-ce que toi, tu tires de cette relation avec ta maman ?
Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une mère merveilleuse. Enfin, moi, elle m'a donné confiance dans mes. Tu vois, dans le fait que. Il y a toujours quelqu'un là qui est là, tu vois, qui t'aime, hein, qui est là pour toi, etc. Donc ça, c'était une grande chance. Je sais que c'est un truc qui est marrant qu'elle a bien réussi, c'est qu'avec mes frères, on est tous persuadés d'être l'enfant préféré. Tu vois, on est trois et on est chacun vraiment persuadé de ça. Et je trouve ça marrant parce que...
Du coup, il y a des battles au repas de famille.
Ouais, voilà. Qui est vraiment l'enfant préféré? Et donc, il n'y en a pas apparemment, ce qui est assez cool. Donc ouais, tu vois, c'est ce sentiment de sécurité affective très fort. Et de... bah écoute, tu feras bien ce que tu veux, voilà, tu vois, on a tous les trois fait des trucs très différents, donc ouais, je trouve que ça, c'était une grande chance.
Et c'est moi. Ce que tu as envie de transmettre aussi ?
Ouais, absolument, j'aimerais beaucoup donner cette même stabilité émotionnelle, tu vois, qu'elle m'a apportée à mes enfants. Je trouve que ça serait une grande victoire pour moi.
Il y a autre chose que tu aurais envie de transmettre à tes enfants ?
Oui, quelque chose où moi j'ai eu un peu de temps à l'avoir, c'est tout ce qui est laisser parler sa créativité. Tu vois, moi j'ai eu un peu de mal à ça au début. Tu vois, j'essayais de vraiment rentrer dans des schémas un peu scolaires, etc. Et je pense qu'on n'encourage pas assez les enfants, surtout en France, à être plus créatifs, tu vois, à être plus penchés aussi sur des choses artistiques. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir les encourager à suivre aussi leur penchant plus créatif.
Si tu avais 2 heures de plus par jour, tu ferais quoi?
Ouais, j'aimerais te dire du sport. Ça, c'est le truc rêvé. Non, non, si j'avais 2 heures de plus, pas... Ouais, alors, il y a 2 trucs, clairement. C'est un, je pense que c'est les enfants, passer un peu plus de temps avec eux quand même.
Ils ont quel âge?
Ils ont 5, 3 et 1. Donc, c'est des âges, tu vois, c'est sympa. Voilà,
donc, t'as lancé cohorte en même temps que...
Ouais, enfin,
dernier,
non, il a pas un, il a 16 mois, tu vois. Donc, voilà, mais il était pas vieux non plus quand j'ai lancé cohorte, c'est clair. C'est sûr. Ouais, donc forcément, voir un peu plus ses enfants, c'est clair. Et après, c'est un truc que j'aimerais trop faire, c'est bouquiner.
Ouais.
Ça, c'est, pour moi, c'est le loisir ultime. Et qui a le premier disparu de ma vie. Et c'est le truc que j'aimerais pouvoir. Pas, et pas que des romans, mais pas mal des romans, mais aussi des bouquins un peu soit économiques, soit un peu sur même les startups. Il y a plein de trucs intéressants à lire. Et ça, ouais, non, pas le temps.
Entre les enfants et la boîte.
Ouais, voilà.
Alors il y a Vera Kampf qui nous a raconté derrière ce micro que la solution qu'elle avait trouvée, notamment pour prendre un tout petit peu de temps, c'est qu'elle avait un club de lecture avec des copines et copains. Alors ils se mettaient quand même des règles, c'est-à-dire qu'ils lisent pas des bouquins de 800 pages, hein, parce que sinon c'est pas possible. Mais du coup, ça force à en lire au moins un par mois.
Ah ouais, mais c'est une super idée. Je comprends. Tu vois, c'est un truc que je pourrais lancer avec des copines aussi. Ouais. Voilà. Merci pour le tip.
S'inspirer. Respirer.
Alors, tu viens juste de le dire, j'ai pas le temps. Et quand on a des enfants, que sa boîte est en phase de croissance, ça va à 100 à l'heure.
Ouais.
Quels sont tes secrets pour te ressourcer?
Alors moi, c'est vraiment les trucs du quotidien, genre je rentre chez moi, c'est trivial, hein. Mais genre, tu sais, préparer le dîner de toi ou de moi ou de mon mari ou des enfants ou machin. Moi, j'aime bien cuisiner, donc tu vois, genre, franchement,
de déconnecter.
Je vois une vertu, mais il y a un truc vraiment, je pense, psychédélique à couper des légumes, tu vois, genre moi là, c'est bon, j'ai... C'est trivial, je suis la vie dire. Je trouve que ça me sort vraiment, ça me détend.
Non. T'as une cuisine chez Cohorte?
Ouais, t'as raison.
Tu devrais peut-être en la journée.
Non, mais tu sais, moi, je trouve que dans les actes quotidiens, t'as un vrai côté, j'ai pas besoin d'aller faire une méditation ou du yoga pour me détendre, tu vois. Je trouve qu'il y a des trucs vraiment simples où, voilà, tu chilles un petit peu, tu vois. Passer du temps. Je dis, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est les loisirs créatifs avec les enfants, t'es obligé d'être dedans, je trouve que les enfants ils sont à fond, ils construisent un petit truc, enfin ces trucs comme ça, tu vois, du quotidien, franchement c'est pas très complexe, moi m'apporte beaucoup de sérénité, voilà, donc c'est
Et comment tu trouves de l'inspiration?
L'inspiration, j'écoute pas mal de podcasts dans le métro, parce que j'adore prendre le métro, moi, parce que c'est, en fait tu vois, le problème du vélo c'est que, enfin en tout cas moi j'écoute pas de podcast, je trouve ça dangereux sur un vélo. Mais en revanche, dans le métro, j'ai mes 20 minutes où je peux écouter des trucs. Et ça, j'aime bien, parce que je trouve que t'apprends plein de trucs, de manière, tu sais, un peu par des détours. Et ça, je trouve ça canon.
Et t'écoutes quoi?
J'écoute, j'écoute 40 Nuances The Next. J'écoute aussi Mathieu Stéphanie, mais j'écoute aussi des podcasts sur l'éducation, enfin tu vois, j'adore les trucs du Monde. Ouais. J'avais écouté Succession, je sais pas si t'avais...
Oui.
J'adorais, j'étais avec mes pop-corns en train d'écouter le truc, c'est trop rigolo. Donc ça, j'aime beaucoup, ça m'inspire parce que je trouve qu'on apprend plein de choses par hasard. Donc là-dessus, et après, j'aime beaucoup aussi discuter avec mes amis. Tu vois, qui ont des parcours hyper variés, des médecins, des gens de la pub, dans les grandes boîtes, des entrepreneurs. Et je trouve que, ouais, ça m'inspire beaucoup de parler avec mes amis de leur quotidien, de leur vie de famille, de leur job. Chaque fois, je trouve qu'il y a plein de trucs à apprendre.
Et dans ces trucs à apprendre, est-ce que tu t'es déjà dit, tiens, il y a un projet à lancer là-dessus?
Ouais, plein, parce que moi, j'adore avoir des idées un peu de boîte, machin. C'est vraiment le truc qui m'amuse. Je pense qu'il y a un énorme truc dans l'éducation. Tu vois, genre, moi, c'est un sujet qui me passionne et qui me déprime un peu. Parce que je trouve que c'est tellement là où tout se joue, quand même, franchement. Enfin, tout ne se joue pas là, mais il y a tellement de choses qui se jouent à ce moment-là. Je trouve que l'éducation, il y a un tel potentiel à changer les choses, à essayer d'autres choses, à essayer de faire mieux. Donc ouais, là, c'est le truc que j'aimerais bien bouger un jour.
Quand tu penses à demain, tu vois quoi ?
Demain, écoute, moi, je vois plein d'opportunités. Ouais. Je pense que y a plein de bonnes choses qui vont arriver, je pense, dans nos sociétés. Bon, il y a plein de choses terribles qui se passent en ce moment aussi. Mais je pense que... Moi, je suis assez optimiste comme personne. Donc, j'ai ce travers-là. Hein. Moi, je vois quand même... Tu vois, un truc qui me rassure, c'est qu'on... Tu sais, j'ai l'impression que les générations, quand elles regardent les enfants d'après, ils se disent « Oh, ils sont bêtes, ils sont pas élevés, ils s'intéressent à rien. » Et je trouve pas du tout. Je trouve que quand je parle à des étudiants ou, tu vois, quand je rencontre un peu... ouais, ou des jeunes, tu vois, qui sont au lycée, je trouve qu'ils sont plein d'idées, hyper cultivés, hyper intéressés. Ils font plein de trucs différents qu'on faisait pas. Et je me dis, en fait, chaque génération est toujours aussi canon, tu vois. Donc voilà, je suis plein d'optimistes.
Ce qui va nous faire une super transition avec la prochaine rubrique.
Parce que c'est notre projet !
Ah, t'es pas obligé de crier à la fin de,
ouais, non, je le ferai
fin de
pas.
Cette rubrique. Imaginons, tu as pris la fonction suprême.
Oula,
ouais. Tu es à l'Élysée. Mm-hmm. Quelle est la première mesure que tu prends ?
Écoute, bon bah sans surprise, ouais, c'est l'éducation. C'est vraiment, je mets un moratoire sur l'éducation nationale et j'essaye. Alors que c'est horriblement complexe comme chantier, donc je ne préjuge pas du tout de mes capacités, de mes compétences du tout là-dessus, mais je pense que ouais, c'est le truc où j'aimerais me dire, il faut essayons de repartir d'une feuille blanche. Comment montrer l'école de demain, tu vois? Comment on s'y prendrait? Comment on rendrait les profs heureux, les élèves heureux? Et qu'on ferait que les parents soient heureux aussi, tu vois? Donc ça, ce serait mon grand chantier.
Avec des exemples concrets, t'as en tête?
Bah ouais, je trouve que, tu vois, il y a des trucs que je trouve qu'on... Il y a deux trucs sur lesquels j'aimerais qu'on bosse en France. C'est... Non, trois trucs, tiens. Allez, hop. Les filles et les matières scientifiques. Mmh. Ça, c'est le serpent de mer. Ça n'a pas beaucoup bougé. Je trouve qu'il y a toujours un côté, les filles se disqualifient dès qu'on parle de maths ou de sciences, tu vois. Même, je trouve, dans mes copines un peu, quand je parle un peu de tech, tout de suite, j'ai le sentiment qu'elles se disent, c'est pas pour moi, exactement. Mmh. Et ça, je trouve ça, ouais, bah, tu vois, je trouve ça cool que ça change un peu. Deuxième truc, c'est, tout ce qui est plus artistique, créativité, parce que je pense que ça sert dans toutes les fonctions. Que tu sois mathématicien, médecin ou artiste, c'est important d'exprimer sa créativité et de savoir la laisser s'exprimer. Et après, le troisième truc, c'est la confiance en soi. Je trouve qu'en France, on est nul là-dessus. Moi, je vois mes enfants à l'école, tu vois, ils ont des maîtresses incroyables, mais il n'y a juste pas du tout de support pour, tu vois, pour travailler sur la confiance en soi.
Mais on ne valorise pas le droit à l'erreur, entre guillemets.
Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, même les trucs un peu à l'américaine, de prendre la parole, ouais, etc. Je pense que, moi, je sais que j'ai énormément souffert de ça enfant. J'étais une timidité maladive et ça m'a mis beaucoup de temps à surmonter et j'aurais aimé qu'on m'aide plus là-dessus, je pense.
Et comme tu disais, c'est un énorme chantier à bouger. Et en parallèle, la EdTech a beaucoup de mal à lever des fonds. Et alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est vraiment à la traîne par rapport à d'autres pays, ouais, sur ce secteur-là. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Ouais, mais en fait, parce que au fond, je trouve que tant qu'on s'attaque pas au cœur du réacteur, qui est quand même l'éducation nationale, on va toujours rester un peu en marge du problème. Hein. C'est-à-dire que en plus, si c'est des services payants, bah, ça va encore être, entre guillemets, pour ceux qui ont le moyen de se les payer, etc. Donc, ouais, en fait, soit on arrive à chambouler par l'intérieur le système, soit j'ai peur que ça reste toujours à la marge. Donc, en fait, le principal investisseur de l'éducation, ça doit être le gouvernement, quoi. Donc, tu vois, on met des moyens énormes. En fait, tu vois, c'est pas une question de moyens, je pense que là, c'est une question de système.
Oui, et de pensée aussi.
Ouais, exactement. Mais en même temps, franchement, je sais que c'est le truc le plus compliqué. Je dis pas que c'est facile, loin de là, je pense que c'est horriblement complexe, mais il faut pas désespérer, il faudrait qu'on y arrive, quoi.
Alors tout à l'heure, au début de cet entretien, tu disais, je suis hyper contente parce que finalement, les premiers utilisateurs de notre service étaient des utilisatrices parce que Etam était votre premier client et c'est des femmes qui ont donc bénéficié. Souvent, à ce micro, en fait, les personnes que je reçois me disent, en fait, c'est les femmes dans la société qui ont fait bouger les choses. C'est souvent des sujets sur l'éducation aussi portés par les femmes. Est-ce Est-ce que tu penses que sur le sujet des sciences, il y a un truc à jouer aussi avec plus de rôle modèle féminin ou d'évangélisation par des femmes sur ces sujets tech?
Ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a un énorme chantier là-dessus. Je pense que, enfin, pour moi, c'est un peu les jobs aussi. Enfin, il y a ça, mais je pense qu'il y a les parents aussi. Tu vois, le job des parents, c'est aussi d'encourager les enfants à aller vers ce genre de matière s'ils en ont l'appétit. Oui, clairement. Donc, ça veut dire que, enfin, en gros, je trouve que c'est un job pour les femmes. Mais moi, je trouve que c'est aussi un job pour les hommes. Franchement, c'est pas que à nous d'encourager les filles. Tu vois, c'est aussi aux pères, aux oncles, aux grands-pères, aux profs. Tu vois, ça joue aussi par ça. Je pense que collectivement, il faut qu'on arrête un peu d'enfermer les filles dans les classes, je sais pas quoi, artistiques, littéraires, etc. Et les garçons dans les maths et la physique, quoi. Donc ça joue. Je trouve que ça joue, ouais, au primaire en fait. Hein.
Wow. Alors, la pandémie, le confinement, c'était des claques pour beaucoup de gens. Toi, si en dehors de ces périodes, si tu devais nous raconter une de tes claques en positif ou en négatif, en perso ou en pro, tu nous dirais quoi?
Alors moi, une de mes grosses claques, ça a été en fait un truc, c'est de te rendre compte à quel point ce que tu fais dans ta vie pro, dans ta vie perso, enfin tu vois l'importance de la, comment dirais-je, enfin tu vois, même si tu fais des choses dont tu vois pas forcément la finalité à un moment, toi par exemple, moi je pensais à la fin de ma boîte précédente qui était très compliquée pour plein de raisons, et on a c'était rude comme aventure, mais on a toujours avec mon associé fait gaffe à tenir la barre et à s'accrocher pour bon, ça se passe bien, tu vois, que pour les clients, pour les employés, pour tu vois, pour avoir un bon karma. Et c'est vrai qu'on faisait pas du tout avec une finalité qui était de se dire bah comme ça, on va penser qu'on est des gens bien et que c'est cool, tu vois. Et en fait, de se rendre compte que les gens, ils oublient pas ce genre de choses, tu vois. Ils oublient pas que t'as essayé de maintenir le cap, que t'as essayé de te battre, etc. Et qu'en fait, les choses que tu fais des années avant te suivent, hein. Alors, en bien ou en mal d'ailleurs, hein, mais c'est que les gens n'oublient pas et qu'en fait, ça peut revenir plusieurs années plus tard en très positif ou en négatif, bien sûr, mais que c'est important. C'est idiot, hein, mais j'ai réalisé ça qu'en fait, il faut vraiment être persistant dans ce qu'on fait, dans sa manière de se conduire, dans ses actions. La vie est longue.
Oui, et on ne sait jamais qui on recroise.
Exactement.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Séraphie, je te laisse le micro pour un coup de gueule, un coup de cœur. À toi de jouer.
Ok, bah je suis en mode coup de gueule aujourd'hui. Non, mais parce qu'en fait, tu vois, là, on est dans une période, je trouve, qui est hyper troublée dans notre pays. Et j'ai un peu un coup de gueule parce que je trouve que, genre, plus personne ne s'écoute. Tu vois, qu'on est dans un monde où, en fait, plus personne n'a envie de s'écouter. En fait, c'est même pas que les gens ne s'écoutent pas, c'est qu'ils ont juste pas envie de s'écouter. Et j'en ai un peu marre de cette ambiance, je trouve, hyper délétère où, en fait. Et c'est la faute de tout le monde, hein. Personne n'a envie de discuter, de s'écouter, de débattre intelligemment. Et ça me frustre énormément. J'ai l'impression qu'on n'avance pas, qu'on reste, tu sais, figé sur des sujets totems et que personne n'a envie de changer. Et je trouve que c'est quelque chose de très, très, très frustrant. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est mon grand coup de gueule.
On voit pas comment la situation va se débloquer.
Ouais, et puis personne n'a envie que ça se débloque. Moi, j'ai l'impression, franchement. Donc, c'est cette envie de s'écouter et de faire avancer les choses. J'ai l'impression que les gens ont perdu de vue ce truc-là. Et ça me frustre énormément.
Avant de finir cette émission, j'ai encore trois petites questions. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui t'agace?
La question un peu serpent de mer qui peut m'agacer, ça peut être genre... est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est plus compliqué parce que t'es une femme? Tu vois, ça...
Je ne l'ai pas posé.
Non, mais parce qu'en fait, c'est juste qu'elle a... En fait, c'est tellement personnel comme question. Enfin, tu vois, c'est tellement genre, en aucun cas, mon expérience vaut pour une autre femme ou pour d'autres femmes. Tu vois, je trouve qu'il n'y a aucun pouvoir universel à être une femme, à répondre pour les autres femmes, en fait. Donc ça, je trouve que... C'est pas qu'elle m'énerve, c'est juste que je me sens à chaque fois, je me dis... Je sais pas quoi dire, quoi. Genre, je sais pas en quoi ce que je vais dire peut aider quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'est plus ça. Et après... après c'est plus quand on me posait la question souvent à des dîners, tu sais, tu vois, un peu, tu sais, les gens qui viennent un peu te poser des questions sur la crypto, le bitcoin, tu vois, de manière extrêmement ouais, un peu vindicatif, tu sais. Mmh. T'es là, mais attends, chacun pense ce qu'il veut. Dire, tu vois, je trouve qu'il y a... Là-dessus, ça tend un peu à m'agacer, effectivement.
Parce que t'es associé à...
Ouais, parce qu'on associe à des trucs qui me... C'est, tu vois, qui, je me sens en aucun cas concernée par FTX, tu vois. C'est genre, je suis là genre, écoute, qu'est-ce que je te dise, moi, c'est pas de ma faute. Tu vois, j'y suis pour rien. Donc ouais, ça a tendance à m'agacer un petit peu, je veux dire.
La question qu'on te pose jamais, c'est tant mieux.
Ouais, c'est... Ouais, c'est très bonne question. C'est... Oui, la question qu'on me pose jamais, et tant mieux, c'est genre... genre, quel est ton style de management en tant que femme, et trucs comme ça, ou là, encore une fois, je suis là, genre, oh là là, je ne sais pas du tout quoi répondre. Des trucs un peu comme ça, ouais, ça, je suis nulle.
Si toi, tu devais choisir une femme entrepreneur que tu admires, sur qui tu aurais envie de mettre un coup de projecteur, tu choisirais qui et pourquoi?
Ah, ouais, bah, j'ai une femme à qui je pense et que j'estime énormément, qui est une amie, hein, qui s'appelle Marianne Gosset. Qui est la cofondatrice de The Socialite Family, qui est une très belle marque et un média de décoration et d'ameublement, et qui est quelqu'un qui je trouve formidable parce qu'elle a une puissance intellectuelle absolument hallucinante, et qu'elle est extrêmement positive, toujours prête à aider, pleine d'énergie. Ouais, c'est quelqu'un que j'admire énormément.
Et bien, merci pour cette dédicace. On arrive au terme de cette interview. J'espère que nos auditeurs et auditrices auront appris beaucoup plus de choses sur le Web3 et que le club s'est ouvert. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir joué le jeu et de nous avoir expliqué tout ça. C'était passionnant.
Merci à toi, Solène.
À bientôt.
Au revoir.